Moi, c'est André de Mbujima, locataire oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. La semaine dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU a reconduit pour une année la résolution décrétant l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo. Il s'agit évidemment d'une résolution qui supprime notamment l'obligation des notifications établies pour les envois d'armes et du matériel connexe à destination de la RDC, à l'exception des armes dont la livraison reste soumise aux procédures des notifications. 10 États ont voté pour la résolution et 5 autres se sont abstenus, dont la Russie et le Kenya, qui ne se sont pas opposés à la résolution. Pour sa part, le député provincial Mike Mukebai estime que cette résolution de l'ONU alerte sur l'urgence d'améliorer le système national de contrôle de la circulation des armes dans le pays, parce que le système actuel, dont les serveurs seraient en panne, est obsolète, a-t-il ajouté. Alors, qu'en pensez-vous ? Vous pouvez également commenter cette actualité sur www.radiocapi.net ou encore sur notre page Facebook. Si vous voulez, appelez-nous au 081 890 49 69 pour participer à ce débat et communiquez-nous votre numéro en cas de besoin. Jiré Mabondo et Charlie Louyeye contribuent à la réalisation et à la production de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous retrouvons dans ce studio Henri Désiré Douzi. C'est comme ça que je crois que je n'ai pas massacré. Hein.
Non.
Voilà, une fois encore, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs de Radio Okapi.
Voilà, parce que nous parlons de cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, d'entrée de jeu, dans quel contexte on adopte une résolution au niveau du Conseil de sécurité?
Alors, d'abord, c'est un exercice qui met souvent en lumière les rapports de force à la fois conjoncturels, circonstanciels, les intérêts des pays membres du Conseil de sécurité. Je parle évidemment des membres permanents. Vous avez évidemment 10 membres non permanents, mais c'est souvent un outil de marchandage, un outil de négociation qui, à un moment donné, permet à un pays ou à un autre d'avoir, on va dire, un avantage stratégique par rapport à un autre, surtout s'il y a des intérêts qui sont en jeu. Mais de manière globale, on peut considérer que l'adoption d'une résolution fait l'objet d'abord d'une discussion, de prise de position de toutes les parties, et bien évidemment, à l'issue des discussions, on passe au vote, et c'est là que se révèlent, j'allais dire, les alliances, ou plutôt, on va dire, les mésalliances. Mais dans le cas d'espèce, on sait très bien que la manière la plus simple et la plus diplomatique de botter en touche pour une résolution, c'est de s'abstenir, tout simplement, sans forcément remettre en cause le fond ou en tout cas le contenu de la résolution.
Alors, est-ce que les contextes dans lesquels nous nous retrouvons, cette adoption de la résolution, l'actuelle, disons, se justifie?
Alors, si l'on parle de cette résolution, vous faites allusion à la résolution 2641 qui a été adoptée. On sait qu'à l'issue du vote, 5 pays se sont abstenus. On va peut-être les rappeler, les 3 pays africains, le Gabon, le Kenya et le Ghana. Et vous avez 2 pays membres permanents. C'est quand même pas n'importe quoi. C'est la Chine et la Fédération de Russie qui se sont abstenus. Chacun a donné, bien évidemment, ses arguments. Globalement, on dira que la Chine et la Russie ont plutôt déploré une violation de la souveraineté de la RDC, lui ôtant toute capacité de pouvoir s'équiper. Et vous avez, au niveau du Gabon, par exemple, une volonté de pouvoir garder intacte la capacité de la RDC à pouvoir, elle aussi, se défendre face à une agression. On verra évidemment dans le détail ce dont il s'agit. D'aucuns pourraient regretter que ces pays n'aient pas voté non, mais encore une fois, il faut être très prudent, puisque quand on lit cette résolution, il y a quand même certaines notifications qui ont été supprimées, hein, mais d'autres qui ont été maintenues pour un certain type d'armes.
Parce que dans la compréhension collective, on a l'impression que finalement, la communauté internationale, mieux le Conseil des sécurités, n'a pas disons, adhéré, approuvé la requête de la RDC. Et pourtant, il y a quand même un assouplissement dans la résolution.
L'assouplissement concerne un certain type d'armes, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais si vous le permettez, je voudrais juste donner un exemple, parce qu'on parle évidemment des pesanteurs bureaucratiques qui pèsent autour de ces fameuses notifications préalables. J'aimerais quand même vous rappeler que la République centrafricaine qui est soumise à un même type de régime de sanctions, hein, puisqu'il y a un régime de sanctions similaire qui frappe la Centrafrique, mais cela n'a pas empêché la Centrafrique d'obtenir un système d'armement de la Russie. Donc, il y a des mécanismes qui permettent effectivement de notifier a posteriori. C'est le cas de la Centrafrique. Donc, au niveau de la RDC, rien ne s'oppose effectivement à ce qu'il en soit ainsi. Mais attention, j'entends dire que ce sont seulement les groupes armés qui sont victimes de l'embargo, mais admettons que ce soit vrai, puisque c'est le cas. Je rappelle quand même que quand vous mettez dans une résolution des groupes armés, vous en faites des acteurs de la vie internationale et donc vous légitimez d'une certaine manière leur position, même si par ailleurs vous mettez en place des dispositifs pour les empêcher de s'équiper. Mais aujourd'hui, avec le M23, on peut s'étonner de sa capacité de réaction à l'aune du matériel reçu, ce qui montre bien que ce fameux embargo n'est pas réellement respecté.
Alors, lorsque le Conseil de sécurité maintient en fait l'obligation de notification pour certaines armes, la résolution met l'accent pour bien signifier les choses en disant que ça ne concerne que les groupes armés, qui ne sont pas autorisés d'accueillir
les groupes armés n'ont strictement pas la possibilité de pouvoir s'équiper. Mais on voit très bien dans les faits qu'il n'en est absolument rien. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'une des grandes faiblesses, je dirais, de ce système de régime de sanctions, c'est que vous avez des acteurs qui ne sont pas du tout concernés par la moindre mesure contraignante. Vous avez des acteurs qui ne sont pas cités dans cette résolution, qui ne sont pas cités dans le régime des sanctions, mais qui peuvent en toute quiétude continuer à livrer des armes à des acteurs qui, eux, pour le coup, le sont, mais sont officiellement sous embargo. Et donc, toute la discussion consiste à voir dans quelle mesure il serait possible de mettre en place, j'allais dire, un mécanisme effectif de contrainte vis-à-vis d'acteurs qui, jusqu'ici, continuent à échapper aux sanctions. Et dans une certaine mesure, il faut bien le dire, vous avez des pays de la sous-région qui ne sont peut-être pas cités, mais qui restent actifs en approvisionnement d'armes pour certains groupes armés.
Alors, rappelons-le, monsieur Henri-Désiré Ndzouzi, vous êtes producteur associé du JT diplomatique, contributeur à Voice of America, VOA Amérique, et consultant MediTV et Vox Africa. Mais d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, à partir de cette résolution, ça montre toute la faiblesse de notre dispositif du système de circulation des armes en République démocratique du Congo?
Bon, écoutez, c'est un vieux débat. Je rappelle que c'est depuis la résolution 1807 qui date de 2008 que l'on a imposé ce régime de sanctions. En fait, ça fait 14 ans maintenant. D'aucuns considèrent qu'il y a obsolescence en la matière, que officiellement l'RDC est, disons, privée de sa capacité à pouvoir s'équiper normalement. L'idée, en fait, de cette résolution et de ce régime de sanctions, c'est d'essayer d'empêcher les groupes armés de nuire leurs donneurs d'ordre, leurs commanditaires, en les privant de toute capacité à se réarmer. Mais on le voit dans les faits que cela n'est pas possible, puisqu'à partir du moment où vous avez dans la notion des relations internationales la notion d'agresseur déguisé, vous avez beaucoup de mal à pouvoir, j'allais dire, fournir les preuves de son application. Dans le cas d'espèce, il y a un soutien, et ça c'est la position du gouvernement, il y a un soutien avéré du Rwanda vis-à-vis du M23. Dans le cas d'espèce, on considérera donc le Rwanda comme étant un agresseur déguisé, à l'inverse de ce que l'on appelle un agresseur assumé, c'est-à-dire celui qui vous prévient qu'il va vous envahir ou vous agresser et qui le fait. Ok, on a un exemple très récent, c'est celui de la Russie en Ukraine. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, la Russie est un agresseur assumé. Mais ici, nous avons un agresseur déguisé. Et donc, toute la difficulté, évidemment, c'est de démontrer que cet agresseur déguisé est à la manœuvre, même si par ailleurs cet agresseur déguisé estime que ce qui se passe en RDC relève de la c'est purement interne, donc politique intérieure, même si dans les faits cela reste contestable à la lumière évidemment des multiples rapports.
On va décrypter un peu la position de ces trois pays, grandes puissances, et qui ont d'ailleurs les droits des veto, notamment la Russie. La représentante de la Fédération de la Russie a expliqué que son abstention par le fait que les sanctions du Conseil devraient mieux refléter la situation sur le terrain. Alors comment le commentez-vous ?
Ben, simplement parce que la République démocratique du Congo est un État souverain qui fait l'objet d'une agression, donc on va dire que son intégrité territoriale est violée, et donc il est normal que la RDC soit en capacité de préserver non seulement l'intégrité territoriale, mais être en capacité de repousser toute agression, d'où qu'elle vienne en fait, de l'extérieur ou même de l'intérieur. Donc, c'est une manière de dire que nous ne pouvons pas enlever à la RDC la capacité de cette dernière à pouvoir s'équiper pour mieux se défendre.
Voilà. Alors, la position et la résolution soulignent par ailleurs que les mesures qu'elle impose n'ont pas pour objet d'avoir des conséquences humanitaires négatives pour la population civile, comme l'a rappelé le représentant du Brésil. Et là également, il y a quand même à dire.
Alors, les fameuses notifications préalables ont été supprimées pour les armes non létales. Ce sont des armes qui, du matériel qui va dans le sens d'une protection des populations, donc qui sont souvent utilisées dans un cadre purement humanitaire. Hein. Donc là, effectivement, il y a pas de souci, j'allais dire, à se faire. Sauf que aujourd'hui, sur le terrain, la situation est extrêmement compliquée. La frontière reste très ténue, puisque vous avez des groupes armés qui n'hésitent pas à s'attaquer aux populations. Et vous avez effectivement des exemples où vous avez des camps de personnes déplacées qui font l'objet d'attaques récurrente de certains groupes armés. L'idée, évidemment, c'est d'empêcher ces groupes armés de sévir ou de nuire, pas seulement ces groupes armés, parce que là, on arrive évidemment au régime des sanctions des individus, c'est très important, avec notamment la suppression des visas, des voyages, le gel des avoirs. Mais si vous me permettez un petit exemple, quand vous prenez Sultani Makenga, par exemple, qui fait depuis de nombreuses années l'objet de sanctions, mais sa liberté de mouvement n'a jamais été aussi grande, ce qui montre bien les limites de l'exercice. C'est bien de pouvoir voter des sanctions, mais c'est encore beaucoup mieux de veiller à leur exécution effective, puisque là, dans le cas d'espèce, nous avons des individus qui ont une capacité de circulation qui reste intacte et donc par conséquent une capacité de nuisance qui pose problème.
Voilà. Alors, d'entrée, avant d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui ont commenté ces sujets sur notre page Facebook et également sur www.radiocapi.net, juste une question de précision. Quels sont les avantages et en même temps les inconvénients de cette résolution?
Alors, le principal...
Parce que tout à l'heure, vous avez dit, elle n'est pas contraignante.
Alors, on va dire, l'avantage, la philosophie générale, c'est d'empêcher aux groupes armés de nuire. Donc, on décrète un embargo. Le problème, c'est que cet embargo touche indirectement la RDC, puisque elle-même est limitée dans sa capacité à s'équiper, puisqu'il y a certains types d'armes qui doivent faire l'objet de notifications préalables. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de la Centrafrique. Aujourd'hui, en dépit de ce que l'on peut dire de cette résolution, la capacité de la RDC à s'équiper n'est pas du tout réduite. Il y a une possibilité de notifier a posteriori, à l'image de ce qui s'est passé en Centrafrique, qui fait l'objet d'un régime de sanctions similaires. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je pense que il faut
donc cette capacité n'est pas réduite.
Elle n'est pas.
Comme le pense le commun des mortels.
Oui.
Donc il faut encore la communauté internationale nous a.
C'est très technique. Tout cela reste très technique. Concrètement, ces notifications préalables nous obligent effectivement à informer pour des raisons de traçabilité. Donc il y a possibilité de pouvoir s'équiper. Le problème, c'est que ce qui rend la chose injuste, c'est que nous sommes vraiment au cœur du sujet avec une situation de guerre sécuritaire où on voit très clairement que nous avons en face un groupe armé qui est soi-disant frappé d'embargo, mais qui n'a jamais été aussi offensif grâce à du matériel récemment acquis. Donc voilà. Ça pose un vrai problème.
Alors, on va ouvrir les standards 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Voilà, on va accueillir les premiers auditeurs. Marie-Paul, vous êtes avec nous. Bonjour Marie-Paul.
C'est journaliste et bonjour à votre invité et à tous les auditeurs de la radio Capi.
Alors Marie-Paul, vous avez la parole. Quel est votre avis?
Oui, merci pour la parole, c'est le journaliste. Et à mon avis, je note que la résolution de la reconduction de l'embargo sur les armes en RDC prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies est un signal fort de la non-maîtrise des circulations des armes létales et des petits calibres en RDC. Et cela alimente bien évidemment la thèse selon laquelle l'insécurité est toujours quelque chose qui est présente en RDC. Parce que vous le savez bien que la RDC, c'est un pays qui est émaillé par des rébellions. Nous avons beaucoup de groupes armés qui sont en train de sévir, qui sont en train de déchirer le pays. Et ces groupes armés utilisent les armes. Et toutes ces armes-là ont quand même le point d'entrée parce que nous avons quand même nos frontières qui devraient intercepter, qui devraient savoir, et aussi les systèmes sécuritaires devraient intercepter toutes les armes qui sont en circulation, mais nos services, nos frontières n'arrivent pas à avoir les contrôles sur ces mouvements. Et ce qui était nécessairement possible que le Conseil de sécurité, à travers la réunion ou la réunion qu'ils ont eue, puisse reconduire sa décision parce que aucun ingrédient ne montre que jusqu'à présent la RDC a la maîtrise sur la circulation ou le port des armes. Alors, vous le savez bien, monsieur le journaliste, et d'autre part, c'est que les opérations des maintiens de la paix des Nations Unies ont fait 3 générations ici dans notre pays. Nous avons commencé par Monique. Nous sommes allés par MONUSCO aujourd'hui, la brigade d'intervention rapide, mais le pays n'est toujours pas pacifié. Ce qui prouve en suffisance qu'il y a quand même un grand souci quant à matière de la sécurité dans notre pays. Et devant un pays qui est totalement un maillot faible du point de vue sécuritaire, je ne vois pas ce pays-là, si on pouvait permettre, comme le cas, tout le monde de procéder où les armes soient en circulation.
Oui, Marie-Paul. Quelque part dans votre message, vous avez dit que la RDC doit prouver qu'elle est à même de maîtriser les armes en circulation dans son pays. Donc, en d'autres termes, vous remettez en cause les dispositifs mis en place par l'État congolais.
Justement, parce qu'on doit prouver, je l'ai dit, c'est sur là que je devrais citer. On doit prouver qu'on a la maîtrise sur les armes. Si aujourd'hui, là, vous l'attendez, les gens témoignent que les rebelles, c'est là qui agressent, ont des armes sophistiquées de plus que la RDC. Mais de quelle voie ils obtiennent ces armes-là, alors que le pays est sous l'embargo? Voilà pourquoi moi je dis que cette résolution, c'est vraiment salutaire pour la RDC, parce que ça va permettre à la RDC d'avoir les contrôles sur les armes. C'est aussi une aubaine. Une aubaine au fait que ça va aussi donner force à la RDC de pouvoir contrer toutes les entrées et contrôler des armes qui viennent depuis les pays.
Il est temps qu'on puisse revoir le système actuel parce que le député Mike Mukebayi, le député provincial, a même fustigé que, semble-t-il, le système actuel dont les serveurs seraient en panne est vraiment obsolète. Il faudrait qu'il soit mis à jour. Merci beaucoup, Marie-Paul. Alors, Emina, vous êtes à Bukavu. Bonjour, Emina.
Bonjour, monsieur Juard, bonjour à monsieur Henri, bonjour à l'invité, bonjour à Julie et à tous les auditeurs de la radio Capi qui sont en train de nous écouter à ce net moment.
Alors, dans votre message, vous avez évoqué la question des traités et des accords internationaux.
Oui. Les traités ou accords internationaux dûment ratifiés par le pays ont un dessous aux lois internes ou aux lois nationales. La ratification de la RDC au traité sur l'interdiction des armes nucléaires n'est qu'une explication tacite de la dernière résolution du Conseil de sécurité quant à ce. Tout en sachant que la loi loge sur les principes et exceptions, une exception peut être soulevée cependant en la matière puisée dans les droits de sécurité internationale, celle de la légitime défense, vu les menaces subies par le Congo, par ses voisins, dont le plus fatal est le Rwanda. Aux yeux des agents de Conseil de sécurité qui ont l'obligation de restaurer la paix et la sécurité au sein des États membres et qui, par contre, étouffe en empêchant le Congo de prendre les armes de taille.
Voilà. Alors, vous avez suivi. Oui, vous avez suivi notre invité. Il n'y a pas interdiction. C'est-à-dire, il y a d'autres armes qui rentrent dans les cadres de la notification.
Bon, je refuse pas. L'embargo là que le Conseil de sécurité a, c'est une façon de dire que c'est seulement ton ami. Vous êtes en train de vous bagarrer, mais on vous plie,
c'est pas ça les cas. Je crois que vous nous avez suivis et notre invité a bien éclairé la question. Merci beaucoup, Éminent, d'avoir appelé. Alors réaction d'abord Henri Désiré, elles aussi, après avoir écouté les auditeurs. Peut-être qu'il y a quand même une confusion, il va falloir qu'on puisse éclairer la lanterne des uns des autres.
Alors, l'embargo, je ne m'entends pas très bien.
Oui, allez-y.
Alors, l'embargo sur les armes concerne bien évidemment les groupes armés, mais également les donneurs d'ordre, les complices ou ceux qui se rendent effectivement complices d'actions qui, par leur nature, compromettent la sécurité et mettent en péril la vie humaine. Et donc, ces groupes armés-là qui sont visés ont malheureusement une capacité à pouvoir continuer à s'approvisionner chez des acteurs qui, eux, ne sont pas concernés par la résolution. C'est pour cette raison que tout à l'heure, je parlais de la nécessité de mettre en place des mécanismes de contrainte effectifs qui puissent être en mesure de sanctionner au second degré ceux qui permettrait de contourner cet embargo-là. Je vous donne un exemple très simple. Si l'on part du principe que le M23 a reçu du matériel neuf de la part du Rwanda en tant qu'agresseur déguisé, eh bien, il y a un circuit qui permet effectivement à ce pays de pouvoir approvisionner ce groupe en armes, violant ainsi l'embargo. Dans le cas de la RDC, il y a des notifications préalables qui sont demandées. Il y a toute une liste. C'est repris d'ailleurs dans les points 1 à 6 de la résolution 2582 de 2021, et où on a effectivement listé un certain nombre d'armes qui doivent effectivement faire l'objet d'une notification préalable pour des raisons de traçabilité. Et puis vous avez, et c'est la nouveauté de cette résolution 2641, une série d'armes, une catégorie d'armes qui, non létales évidemment, sont plutôt destinées à la sécurisation de certains espaces et dans certaines situations d'urgence à caractère humanitaire.
Voilà, alors dans la résolution, on reconduit en même temps le mandat du groupe d'experts prévu par la résolution 2360 qui a été d'ailleurs prise en 2017.
Oui, tout à fait, parce qu'il s'agit pour ce groupe des experts de pouvoir continuer à travailler et à fournir, ou en tout cas à garantir une mise à jour des informations qui permettront l'année prochaine, par exemple, à la même période, de décider si oui ou non il convient de reconduire le régime des sanctions ou tout simplement à les interrompre.
Voilà, alors on va passer de l'autre côté du standard pour accueillir les autres auditeurs. Alors Peter, Kalogi est avec nous. Kalo, bonjour. Kalogi. Alors on va prendre Peter Mabidi. Voilà.
Oui, allô?
Allô? Vous avez la parole.
Oui. Bonjour, monsieur JR, bonjour à votre invité.
Oui, Kalo, vous avez la parole. Quelle est votre contribution?
Je pense que les Congolais doivent faire la part des choses. Je ne sais pas, je n'ai pas bien suivi votre invité, mais je sais que les gens prennent l'embargo d'une autre manière. Ici, l'embargo dont il est question, monsieur JR, ce n'est pas l'embargo interdisant les pays de s'enquérir des armes. Ici, c'est le grand problème, c'est sur le territoire congolais. Je prends un cas, monsieur JR. Aujourd'hui, là, chez nous ici, les armes circulent comme on veut. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, nous avions ici chez nous, il y a eu des officiers qui ont été taxés de vendeurs d'armes aux groupes armés. Mais quand il y a un problème d'embargo ici, c'est pour connaître la destination réelle des armes qui arrivent en RDC. Je prends un cas. On peut acheter des armes au niveau de la Russie, par exemple. Et que ces armes-là sont pour la direction de la RDC. Et que ça n'arrive pas aux autorités congolaises établies, mais peut-être ça dévie et ça arrive au niveau des groupes armés. C'est si, pour moi, je trouve que c'est une manière aussi de nous protéger. Bien que nous pouvons parler, mais moi je trouve qu'aujourd'hui là, il y a des groupes armés qui se ravitaillent des armes, mais tout en prenant seulement...
Oui, mais quand vous évoquez le cas de la Russie, vous êtes sans ignorer que la Russie s'est abstenue par rapport à cette résolution. N'a pas voté, non.
Il s'est abstenu. Vous n'avez pas suivi aussi son représentant qui a dit qu'ils sont prêts à donner les armes si la RDC en a besoin.
Non, s'abstenir n'est pas dire s'opposer à la réalisation, à la résolution.
Oui, là je ne refuse pas. Ce sont des grandes puissances, ce sont des gens qui se partagent des cadeaux. Moi je ne suis pas là-bas. Donc moi mon problème, je trouve que il fallait, quand on achète des armes exclusivement, moi je trouve que les armes doivent être à la direction du gouvernement. Et aussi, moi je trouvais que, je pensais peut-être que dans la résolution, on pouvait voir aussi d'autres pays qui sont impliqués dans des ventes illégales d'armes. Par exemple, aussi au Rwanda, vous avez des preuves, vous brandissez aussi des preuves au niveau des communautés internationales. On dit aujourd'hui, même au Rwanda, même tous les pays qui ravitaillent les groupes armés, sur la RDC, voilà comment vous devez aussi être sanctionné, voilà la procédure, voilà comment vous devez passer à l'achat des armes. C'est aussi ça. Mais le grand problème, nous a indiqué quelque chose, comme si la RDC n'a pas d'armes, ne peut pas avoir des armes. Moi, je trouve qu'actuellement, on va avoir des armes, mais le problème ici, c'est de voir comment les armes achetées sont dirigées vers la RDC à travers les autorités, et non dans les territoires, en vrac, non. Là, moi, je dois le protéger. Moi, je suis d'accord de la
marque. Donc, vous soutenez la résolution, mais vous demandez à ce que les dispositifs mis en place dans le cadre de la circulation des armes soient quand même efficaces et que le contrôle soit bien établi. Merci beaucoup, Kalo.
Effectivement, monsieur Cher, c'est ça ma position.
Merci beaucoup, Kalo. Alors, on va prendre Xavier qui est à Lubumbashi. Xavier, bonjour.
Bonjour, Gilles. Bonjour à l'invité. Bonjour aux auditeurs de la radio Kati.
Quelle est votre position?
Oui, merci. Moi, je dirais ici, premièrement, que ici, moi, je dirais que c'est le jeu de la rhétorique. Enfin, c'est-à-dire, on a changé de narratif, mais le fond reste le même. C'est-à-dire quoi ici? On peut tout dire, on peut tout expliquer sur la question, mais bien évidemment, nous sentons que il est incontestablement vrai que ici, la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU est en train d'astreindre systématiquement la RDC à s'armer à sa guise pour bien défendre ses ennemis. C'est ça ce que je vois. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'on peut expliquer, non, l'embargo, ce n'est pas l'embargo. Oui, d'accord, très bien. Et il faut notifier juste les achats des armes légères, les autres là pouvaient les... Bon, tous, je suis en train de comprendre, parce que quand vous voyez très bien, généralement, ce qu'on va se procurer, ce sont ces armes-là qu'on doit notifier. Et enfin, on peut tout dire. C'est-à-dire, le vrai problème ici, qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? Parce que ça fait très longtemps que la communauté internationale est en train de trahir la RDC. Vous voyez, le président de la République, Félix Tshisekedi, se bat pour retrouver la paix. Ça fait très longtemps qu'il est en train de se battre, mais jusque-là, on ne voit pas suffisamment l'accompagnement de la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, bien entendu, de l'ONU. Parce que quand vous regardez à l'est du pays ce qui se passe, ça ne commence pas tout
de suite. Oui, mais à quoi comment justifiez-vous cette trahison que vous évoquez, dès lors que certaines personnes estiment qu'il s'agit là d'une alerte pour permettre à ce que la RDC puisse bien tracer les armes qui entrent sur le territoire national?
D'accord. J'explique de la manière suivante de trahison, parce que quand vous regardez, au moment où nous sommes en train de parler à ce sujet, la RDC est agressée par le Rwanda. Et le président qui fait qu'il dit, c'est responsabilité aussi d'alerter l'agression du Rwanda. Mais est-ce que au moment, jusqu'à preuve du contraire, combien, quelles sont les condamnations qu'on fait, ou bien, c'est pas les condamnations, ou bien les exigences?
Oui, parce que vous avez peut-être appris en cours de l'émission, notre invité a beaucoup plus insisté sur des preuves, parce qu'il y a des preuves apportées devant le Conseil de sécurité.
Aucune voix à ce sujet.
Merci beaucoup.
C'est ce qui fait que, là, nous voyons que la communauté internationale trahit le Congo.
Merci beaucoup, Xavier. Voilà, merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup, Xavier. On va prendre Maître Alidor. Maître Alidor, bonjour. Maître Alidor, vous êtes avec nous? Alors, on prend Peter Babidi. Peter, bonjour.
Pour le stade de Radio Capé, je salue aussi l'invité, monsieur.
Vous avez la parole.
Oui, merci Monsieur Gir. Nous nous inscrivons en faux concernant cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la notification que la RDC doit nécessairement au préalable adresser à cette organisation afin de s'approvisionner en armes pour sa propre sécurité. Monsieur Gir, tout État est indépendant. Nous avions crié à l'indépendance, nous venons à peine de fêter notre indépendance. L'indépendance ne signifie pas que nous devons encore être aliénés. Non, nous sommes Africains, Monsieur Gir. Cette guerre de l'Est date de longtemps. Et le cas même de l'embargo dont nous sommes victimes, Monsieur Gir, je ne pense que cela pourra apporter une solution. En tant qu'un État souverain, Monsieur Gir, je pense que la RDC a toute possibilité de tendre la main à n'importe quel État qui veut lui venir en aide pour ne pas vraiment faire complaisance à ce Conseil de sécurité, Monsieur Gir. La question de sécurité, c'est une question sensible qu'on doit gérer avec beaucoup de souplesse, beaucoup de prudence. Mais avec cette résolution, ça nous touche encore à la pluie. Parce que combien de Congolais qui sont morts à l'aise? Et quelle est la position de la communauté internationale? Quelle est la position du Conseil de sécurité face à cette
question de la RDC? Dites-nous, selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de cette résolution, selon vous?
Monsieur, les avantages, c'est que, monsieur, jusque-là, avec cette résolution, nous n'avons aucun avantage du fait qu'on nous estreint de notifier. Quand l'Amérique s'approvisionne, la France s'approvisionne
voilà.
En armes.
Alors, si vous le permettez, restez en ligne, le temps que notre invité puisse repréciser les choses pour la compréhension collective. Monsieur Henri Désiré Ndoussi.
Alors, pour reprendre les choses, en fait,
l'esprit et la lettre de la
Alors, réduction. L'esprit général de ce régime des sanctions et de cet embargo sur les armes, c'est de priver ou doter aux groupes armés toute capacité à pouvoir s'équiper en armes. Simplement, dans le cas de la République démocratique du Congo, il y a des notifications préalables qui sont demandées pour un certain type d'armes. Certaines de ces notifications viennent d'être supprimées, on le sait, notamment pour les armes létales. Il y a néanmoins une catégorie d'armes qui peuvent être effectivement acquises par le pays, mais qui continuent à faire l'objet d'une notification. Ce qui pose problème, et je comprends tout à fait la colère de certains de nos auditeurs, c'est que la RDC soit obligée de notifier pour cela, alors que effectivement nous sommes un État souverain. Et c'est pour cela que la Chine et la Russie, par exemple, ont évoqué une violation de la souveraineté de la RDC, et que les trois pays africains, Ghana, Kenya et Gabon, ont estimé que l'on empêchait à la RDC toute capacité à se défendre dans une situation de ce type.
Voilà, alors je crois que Maître Alidor est en ligne. Hein. Peter Mabidi est là. Peter. Alors on va prendre Maître Alidor. Maître Alidor.
Oui, merci de la parole, monsieur JR. Bonjour à l'invité ainsi qu'aux auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole.
Oui, monsieur JR, nous pensons que dans cet état de choses où la RDC fait face à une agression, donc ce n'est pas une supputation, le pays se trouve agresser à ce stade et maintenir l'embargo, prévoir le système de notification préalable pour l'acquisition de certains types d'armes. Donc c'est cela, M. Gilles, que nous disons que le Conseil de sécurité n'a pas bien agi, parce que si nous étions en droit interne, on peut parler de la non-assistance à personne en danger, parce que chaque jour qui passe, il y a des pertes en vie humaine, il y a des minéraux qui sont en train d'être pillés et voler ainsi de suite. Le Conseil de sécurité pouvait aussi compatir avec le peuple congolais qui n'a fait que beaucoup souffrir, en levant toutes sortes de notifications préalables. C'est cet alourdissement-là de la notification préalable.
Si on avait tout supprimé, la notification et le Conseil de sécurité va lever. Oui, Maître Alidor. Maître Alidor, pensez-vous que si on avait tout supprimé, ça va résoudre le problème de la sécurité dans l'Est?
Ça pourrait résoudre le problème de l'insécurité, M. JR. Parce que.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'on allait se retrouver?
Les groupes armés, on allait se retrouver. Le pays voisin de l'Est de notre pays ne comprennent que le langage des armes.
Oui. Mais alors, comment allons-nous?
Une négociation n'accouche que d'une souris. Alors, si la RDC a une armée forte, si les éléments de phare d'essai disposent aussi des munitions, des armes pouvant leur permettre de faire face à l'ennemi, je pense que cela peut inspirer la crainte au niveau des pays voisins.
Oui, pensez-vous.
Un autre aspect,
Alidor.
Nous avons bien voulu. Nous avons bien voulu que le Conseil de sécurité maintienne aussi ce système d'embargo pour le pays voisin, l'Ouganda.
Voilà, Maître Lidor, je crois que Maître Lidor, je crois que on a largement expliqué le contenu de cette résolution, mais bon, finalement là, on est en train de revenir sur ça. Jean-Baptiste Lény, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Vous avez la parole.
Bon, voilà, c'est un peu, le débat est très chaud. C'est vrai que l'ajustement de Conseil de sécurité, c'est une expression de l'hypocrisie. Et ça, on n'est pas surpris, en fait. Parce que nous savons l'ajustement de ces organisations internationales, et surtout de l'Occident en général, parce que vous verrez même dans ce Conseil, comme l'a expliqué votre invité, il y a la Russie et la Chine qui se sont empariées. Donc nous connaissons, à part ceux de pays cités, nous connaissons ces pays et qui ont laissé leur signature, sont le pays quasiment de l'Occident, et on connaît la manière dont l'Occident agit. L'Occident n'est pas ce qu'a ses intérêts, ça c'est évident. Je m'arrête là, je ne vais pas aller trop loin. Alors, cette attitude, c'est une hypocrisie totalement. Comme l'a dit mon prédécesseur, c'est comme si on disait en droit interne, c'est une non-assistance en fait à une personne qui est en danger. La RDC est en danger, on refuse que la RDC puisse en avoir. Pour que la RDC puisse en avoir, il faut des préalables en signer, des notifications, etc. Alors qu'on sait que la RDC est en danger. Je parle, voyez, nous avons la MONUSCO ici depuis des décennies.
Mais alors, Jean-Baptiste, est-ce que vous avez une idée sur l'évolution de cette résolution? Ça date de quand? Parce que finalement, on a l'impression que cette résolution, c'est une nouvelle.
Mais cette histoire de l'embargo, ça date depuis longtemps, non?
C'est pas ça l'histoire. Mais non, mais parce que quand on vous entend parler, c'est comme si ça ne date que d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire en évoquant un peu d'où est partie cette résolution et comment on en est arrivé là?
Bah, moi, je n'ai pas plus de connaissances.
Voilà, alors, si vous n'avez pas d'autres connaissances, nous allons vous permettre d'en avoir avec notre invité et qui est sur place. Alors, le temps pour nous de prendre Maître Quasimoto.
Donc, c'est depuis 2008, en fait, qu'a été mis en place ce régime des sanctions par la résolution 1807, qui avait pour objectif, tout d'abord, en application, bien évidemment, du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, de mettre tous les moyens en œuvre pour empêcher les groupes armés de nuire ou de sévir. Et d'où cet embargo décrété contre justement ces groupes armés. Depuis 14 ans, effectivement, la RDC est soumise à un régime de notification dite préalable, même si certaines d'entre elles ont été supprimées dans cette dernière résolution 2641. Je note que l'un des trois pays africains, je pense que c'est le Ghana ou le Kenya, dans les discussions, avait demandé en écho avec le représentant permanent de la RDC aux Nations Unies, une suppression totale des notifications préalables. Ce qui aurait d'une certaine manière évité ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire non-assistance à personne en danger. Mais ce que le Conseil a voulu aussi éviter, en évitant précisément cette suppression totale des notifications préalables, c'est une prolifération encore plus importante des armes. Mais il faut avoir présent à l'esprit que la République démocratique du Congo est confrontée à une situation sécuritaire et que aujourd'hui, le seul impératif, c'est la restauration de l'État. Et donc, la RDC doit être en capacité de se défendre. Et c'est effectivement, je comprends tout à fait la révolte nous suivent, parce qu'on a effectivement le sentiment d'un deux poids, deux mesures. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure en introduction, l'adoption d'une résolution, en fait, la résolution en tant que telle, ou même les sanctions en tant que telles, ne sont que des instruments, des outils qui sont utilisés à un moment très précis par des acteurs clés qui ont des intérêts ou qui ont tout simplement des rapports de force à entretenir ou à modifier. Ça fait l'objet de marchandage, ce qui fait que parfois on a le sentiment que certains acteurs sont ménagés par rapport à d'autres ou que certaines résolutions sont incomplètes. Et j'insiste encore une fois, ceux qui en réalité violent cet embargo, ce sont des États qui ne sont pas cités dans ces différentes résolutions. Ce sont des acteurs passifs, mais qui apporte un soutien matériel, logistique, à des groupes armés qui, par la même occasion, ont la possibilité de contourner cet embargo. Toute la question, c'est de savoir si le Conseil de sécurité à l'avenir aura le courage de mettre en place des mécanismes effectifs de contrainte pour sanctionner au second degré ces pays qui permettent de contourner cet embargo.
Voilà, alors si je peux résumer rapidement ce que vous venez de dire, la résolution reconduit les dispositifs prévus au paragraphe 1 et à 6 donc de la résolution 2582, là nous sommes en 2021, mais supprime l'obligation des notifications établie dès la résolution 1807 de 2008.
Donc il y a certaines catégories d'armes pour lesquelles les notifications préalables ne sont plus nécessaires. Voilà. Mais ces armes-là sont non létales.
Voilà, donc il s'agit de tous les types d'armes, d'un calibre allant jusqu'à 14 mètres,
oui.
Et des mortiers
d'un calibre. En plus de cela, ouais. Effectivement, en plus de cela, mais au-delà, c'est très compliqué.
Voilà, donc on va passer de l'autre côté du standard, mais en rappelant ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, qu'ils peuvent également participer à cette émission en composant les 081-890-63-30 ou encore les 081-890-49-69.
Parole aux auditeurs.
Voilà, je crois que nous avons François. François est en ligne.
Bonjour, Pierre et la magie.
Voilà, François, c'est plutôt JR qui est en ligne, au micro. Vous avez la parole, François.
Bonjour, JR Lungemola. Bonjour à tout le monde qui écoute la radio Capillaire de la Paix. Écoutez, monsieur JR, je tiens d'abord à vous saluer pour une thématique et un sujet qui est en ligne. Vous savez, monsieur JR Lungemola, le fait qu'on a... Allô?
Allez-y, vous avez la parole.
Oui, le fait qu'on a l'ONU a adopté une fois de plus l'embargo de l'achat des armes à la RDC. Mais moi, je dirais que cette reconduction démontre la faiblesse de la diplomatie congolaise, qui n'est pas agissante pour influencer un vote à ses pairs en sa faveur et la communauté internationale en tire gain. Je ne dis pas que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Christophe Lutundula, à qui je salue en passant, n'est pas à la hauteur, mais quand on parle de la diplomatie agissante, lui, en tant que représentant direct, mais beaucoup de dossiers sensibles, c'est très au niveau de la présidence de la République. Au niveau de la présidence de la République. Lorsque ça ne marche pas, M. Gélungim, qu'est-ce qui peut empêcher la RDC de rompre les relations avec les États qui ne nous aident pas? J'ai vu récemment, avant que le chef de l'État aux premières années de son pouvoir. Il a fait beaucoup de voyages dans beaucoup de pays. Mais vous remarquerez ensemble avec moi que il y a certains pays où le chef de l'État a passé à renouer les relations, n'ont pas voté en faveur de la RDC. Encore bon de continuer une diplomatie coopérative avec ces États. Donc moi, j'appelle au sens du chef de l'État et du vice-ministre des Affaires étrangères de revoir leur façon de coopérer avec les tiers états.
Voilà, merci beaucoup François. Alors on va prendre Maître Deo. Maître Deo, vous êtes avec nous?
Oui, c'est ça, Maître.
Vous avez la parole, Maître Deo.
Oui, merci beaucoup, Maître Gilles, de la parole accordée. Par rapport, n'est-ce pas, à la thématique du jour, d'abord, je suis en train de souligner... la manière dont la communauté internationale est en train, n'est-ce pas, d'amorcer des choses. Il s'agit là d'une atteinte contre la souveraineté d'un État par rapport à cette mise à la reconduction de la mise en embargo. Dès lors que l'État est envahi et agressé et violé, son intégrité du territoire national est violée, l'État, n'est-ce pas, a droit, n'est-ce pas, de riposter ou de réciprocité, en tout cas, par rapport, n'est-ce pas, aux forces que les envahisseurs ou, n'est-ce pas, ceux qui violent l'intégrité du territoire, tous les ennemis, afin que l'État repose pour qu'il revendique et puis qu'il manifeste la puissance publique à l'égard, n'est-ce pas, de l'intégrité du territoire sur base de principes ou de la théorie du territoire limite. Parce que l'État ne peut accepter que même un centimètre de son sol soit, n'est-ce pas, violé par, n'est-ce pas, les ennemis ou par une puissance étrangère. C'est par là que l'État va imposer la puissance publique. La puissance publique voudrait dire que l'État, n'est-ce pas, doit veiller à l'intégrité de ses frontières. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la communauté internationale? Lorsque le même fait se déroule ailleurs, dans les pays occidentaux, là, on voit la communauté internationale s'impliquer, financer, appuyer, avec un arme, un matériel de guerre pour que cet État puisse faire face, pas faire face à l'incursion étrangère. Il y a eu le cas, n'est-ce pas, qui a tué entre qui est d'ailleurs pendant entre l'Ukraine et la Russie. Pourquoi n'est-ce pas en train de soutenir l'Ukraine? C'est parce que le territoire est envahi.
Oui, maître Deyo, avez-vous lu intégralement cette résolution? Qu'est-ce que vous avez retenu dans cette résolution?
La résolution reconduit à ce que qu'il n'y ait pas quand même la RDC ne puisse pas avoir la lâcheté de l'utilisation des armes létales à haute intensité. Par exemple, les armes très conventionnelles, la RDC ne peut jamais, n'est-ce pas, les utiliser parce que ce sont les armes qui sont, n'est-ce pas, en droit international très connues comme les armes à destruction massive. Parce que ça fait longtemps que cette mise d'embargo-là avait eu lieu. Mais aujourd'hui que ces armes sont utilisées par la puissance étrangère, nous avons, n'est-ce pas, appris...
Est-ce que maître Deyo, ne pensez-vous pas, comme les autres, qu'effectivement, c'est une alerte pour permettre à ce que nous puissions améliorer notre système de contrôle de la circulation des armes dans notre pays?
Monsieur Jure, le contrôle de la circulation des armes, on peut contrôler. On améliore. Mais quand il y a l'état de nécessité, il y a l'état, d'ailleurs, dans l'espace est, il y a l'état d'urgence. Quand nous sommes l'état
admettons qu'on supprimait l'obligation de la notification, en tout cas à tous les niveaux, vous pensez qu'on allait bien contrôler la circulation des armes et que ces armes n'allaient pas se retrouver entre les mains des groupes armés?
Non, là, si on n'est pas on autorisé, l'État seul saura comment canaliser ses armes et utiliser ses armes pour que ses armes ne tombent plus pas tomber entre les mains de l'étranger.
Alors, présentement, comment les armes se retrouvent entre les mains des groupes armés?
Non, les
est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une faiblesse? Parce que, comme l'a dit l'honorable député provincial, Mike Mukebayi, semble-t-il que le serveur serait en panne, le serveur du système actuel qui contrôle la circulation des armes.
Oui, M. J.F., si les armes se retrouvaient entre les mains des groupes armés, et les enquêtes ont démontré que ces groupes armés font partie des États étrangers, cela veut dire qu'il y a une main étrangère, il y a une main noire qui finance ces armes à partir des États étrangers, et non à partir de la RDC, parce qu'il n'y a pas eu de révélations qui ont attesté à ce que non, on a appris les autorités de l'armée congolaise en train de financer, n'est-ce pas, en armement, les groupes armés. Ce sont les Rwandais, les autres puissances, et on a pu démontrer cela. La RDC a cité, monté au créneau pour citer aéroport, et même les relations diplomatiques sont tendues. C'est pour dire que les ADF et les autres M23 venaient de l'étranger, et ces armes sont financées à partir de l'étranger, et non à la RDC. Qu'on ne puisse pas porter les chapeaux de faiblesse pour dire que non, tu ne sais pas contrôler par les arguments de fait, et non, n'est-ce pas, qui ne sont pas vérifiés, qu'on n'a pas pu canaliser pour dire que non, nous avons attrapé l'autorité militaire telle, l'officier militaire telle.
Voilà, on va voir si Amos a également lu la résolution. Amos, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi, bonjour à l'invité.
Alors, première question, avez-vous lu la résolution?
Justement, j'ai lu la résolution.
Qu'est-ce que vous avez retenu?
C'est un regret pour la RDC, parce qu'on n'a pas compris que c'est pendant que notre pays est agressé par certains de nos pays voisins, dont le Rwanda et l'Ouganda, qu'une telle résolution vient d'être encore une fois votée pour une année. Je venais de suivre l'auditeur de tout à l'heure. J.R., il faut comprendre que la RDC ne fabrique pas des armes. Les armes sont fabriquées par les puissances internationales. Et il faut se demander comment ces armes parviennent aux groupes armés en RDC. Ce sont ces mêmes pays qui venaient de voter cette résolution qui seraient derrière ces groupes armés en RDC. Et je pense que déjà beaucoup déjà peuvent comprendre qu'il y a une complicité négative contre la RDC. Et l'autre question que je me suis posée, quand j'ai vu tous les pays qui ont voté cette résolution, je me suis dit finalement, on a vu récemment notre président sillonner dans beaucoup de pays, il a même...
Il y a un de ses prédécesseurs qui l'a évoqué. Voilà, on ne pourra pas aller plus loin parce que le temps nous fait défaut.
Il était à la quête de la diplomatie, une bonne diplomatie, une bonne relation avec tous ces pays-là. Mais c'est vraiment révoltant de constater que même dans beaucoup de pays où il a été de passage, ces pays n'ont pas voté
pour la RDC. Merci beaucoup.
Ils ont voté contre la RDC.
Merci beaucoup, Amos. Alors, on va reprendre vos propos, les uns et les autres. Ils ont dit quelque chose. Henri Désiré Douzi, vous êtes, je le rappelle, producteur associé du JT diplomatique et contributeur à Voice of America. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette résolution et après avoir écouté les uns et les autres?
Alors, cette résolution reconduit pour une année l'embargo avec un allègement au niveau des notifications préalables, mais tout en élargissant les sanctions, c'est-à-dire individuelles par rapport au gel des avoirs et par rapport au voyage. Ce qui est mis en avant ici, bien évidemment, c'est la capacité de la RDC à pouvoir s'équiper sans pour autant passer par ces fameuses notifications préalables, étant donné qu'elle est en situation d'urgence et donc en situation de guerre. L'embargo qui concerne en réalité les groupes armés, même si cela a été reconduit, on le voit depuis de nombreuses années, est inefficace pour la simple et bonne raison que vous avez des acteurs non identifiés dans cette résolution qui ont toute latitude pour continuer à approvisionner ces groupes armés. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'en matière de relations internationales, les États n'ont que des intérêts. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours et donc ça ne sert à rien de pleurer ou de reprocher à tel pays d'avoir adopté telle attitude à tel moment, parce que nous sommes dans un jeu de rapport de force, un jeu de rapport d'intérêt, circonstanciel, conjoncturel, à un moment précis où certains acteurs ont l'avantage peut-être par rapport à d'autres. Et donc il faut faire très attention à cela, c'est ainsi que fonctionnent les relations internationales.
Alors que recommandez-vous à l'État congolais?
Je pense que la RDC gagnerait à mettre en place une diplomatie à la fois proactive et qui soit suffisamment en capacité d'identifier ces pays qui peuvent être des alliés. La nouveauté, c'est que parmi les 5 pays qui se sont abstenus, il y a 2 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Donc ça veut dire que se rapprocher d'une certaine manière de la Chine et de la Fédération de Russie peut être un moyen de pouvoir, je dirais, accroître sa capacité à convaincre. Vous avez d'autres acteurs qui, effectivement, sur le papier, entretiennent d'excellentes relations avec la RDC, mais qui se sont abstenus. Les Émirats Arabes Unis, qui siègent aujourd'hui au Conseil de sécurité en qualité de membre non permanent, ont voté pour le texte. Donc on peut se poser des questions. Vous avez d'autres pays aussi avec lesquels nous avons d'excellents rapports. Il n'y a pas très longtemps, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, était à Paris. La France a voté en faveur de ce texte-là, alors que la France s'était engagée à soutenir toute initiative de la RDC. Donc on le voit bien, ce n'est pas simple, les choses sont parfois très complexes.
Est-ce qu'on peut dire sans hésiter que l'intervention de la RDC au Conseil de sécurité n'a pas convaincu?
Écoutez, je ne serai pas aussi direct.
C'est une question très directe.
Mais je pense que nous aurions gagné à mieux peut-être préparer notre intervention. Mais je le répète encore une fois, sortons de cette position victimaire et victimisante. Agissons.
Voilà, Henri Désiré Nzoussi, tout le plaisir était pour nous de vous avoir comme invité dans cette émission. Nous rappelons que vous êtes producteur associé du JT Diplomatique, contributeur à Voice of America et consultant Medi TV et Vox Africa. Voilà, donc Of America, VOA et VOA Afrique. Voilà, merci beaucoup, en tout cas, tout le plaisir de vous revoir encore.
C'est un prochainement. Plaisir, un plaisir partagé.
Voilà, donc pour continuer à réfléchir sur des questions liées à la diplomatie dans notre pays. On se retrouve très bientôt. Voilà, merci également à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Et à très vite, on se retrouve pour un autre numéro.